Sur ce premier culte, j'ai eu à cœur de réfléchir sur la notion d'amitié chrétienne. Qu'est-ce que c'est que d'être un ami chrétien ? Job, chapitre 2, verset 11. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama, ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. Amen. Job traverse un moment extrêmement difficile de sa vie. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu sa renommée. Et au-delà de tous les biens matériels, au-delà de la souffrance physique qu'il peut connaître, il y a quelque chose qui est encore bien plus douloureux. C'est tout simplement l'incompréhension. Pourquoi lui qui est juste ? Pourquoi lui qui est fidèle ? Pourquoi lui qui était intègre devant Dieu, qui s'asseyait aux portes de la ville et qui donnait des conseils, est-il touché par cette épreuve terrible ? Pourquoi doit-il subir des choses pareilles ? Et quelque part, ce raisonnement, qui que nous soyons, quelle que soit notre maturité spirituelle, soit nous l'avons connu, soit nous le connaîtrons, soit peut-être mon frère, ma sœur, tu le connais aujourd'hui. Et finalement, on s'assimile souvent à Job, parce que nous traversons l'épreuve, on s'assimile souvent à Job, parce que eh bien, nous connaissons finalement ses sentiments, et ça fait du bien de relire le livre de Job lorsque nous passons par la difficulté, parce qu'à la fin, il y a la restauration, et une restauration glorieuse. Frères et sœurs, si nous-mêmes nous pouvons être comme, vivre les mêmes sentiments que Job, à nos côtés, peut-être la personne qui est assise côté de toi est aujourd'hui dans la position de Job, et il a besoin que tu sois son ami. Il a besoin de pouvoir compter sur toi. Autour de nous, dans notre monde, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, des hommes et des femmes qui ont besoin bien d'avoir des amis véritables, des amis authentiques. Et je crois de tout mon cœur, et ça sera quelque chose qui reviendra un petit peu comme un fil rouge dans ce message, c'est qu'avant d'annoncer le message de l'Évangile, il est nécessaire de développer une relation amicale authentique, un rapport de confiance. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avant d'être un bon chrétien, il faut être un bon humain. Il faut être un homme, une femme de cœur, quelqu'un qui soit réellement empathique, quelqu'un qui soit capable de vivre. L'apôtre Paul nous exhorte à nous supporter les uns les autres, c'est-à-dire à nous porter les uns les autres. Vous n'y avez jamais vu de sens négatif, bien sûr, à ce terme-là. Et je crois que c'est valable également dans la communion fraternelle. Sous bien des aspects, les amis de Job ont été remarquables pendant un temps. Pendant 7 jours et 7 nuits, ça a été des amis parfaits. Ça a été des hommes et des hommes extraordinaires. Ils sont venus, ils se sont tus. Mais par la suite, ils sont devenus des amis fâcheux. Et toute la réflexion de ce matin, c'est se dire, voilà, moi, à côté de moi, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont des besoins. À mes côtés, eh bien, oui, peut-être, Seigneur, tu m'as mis quelqu'un sur le cœur. Comment, eh bien, être un véritable ami ? Comment l'aider de manière spirituelle et authentique ? Et comment faire en sorte que Dieu fasse son œuvre en son temps ? La première chose, premier point, c'est qu'ils ont été de bons amis tant qu'ils se sont tus. Ils ont été de bons amis tant qu'ils se sont tus. Et ça, mesdames, c'est compliqué. Oups, pardon. Tout simplement parce qu'ils ont exercé une présence. Et cette présence, on la voit dès le début, parce qu'ils vont venir vers. Et j'aime bien cette expression-là. Ils vont venir vers. Ils vont quitter leur pays lointain, ils vont faire un voyage conséquent, ils vont vraiment eh bien, prendre du temps, ils vont investir pour venir vers Job. Ils n'ont pas attendu que Job les appelle, qu'il leur envoie des nuages de fumée, ils n'ont pas attendu que Job vienne chez eux, il en était strictement incapable, ils n'ont pas attendu eh bien, que Job leur fasse des signes ou qu'on leur dise eh bien, qu'on leur emmène Job sur un brancard, ils n'ont pas simplement prié pour Job. Mais ils ont pris leur bagage, ils ont laissé vos vaches, je ne dis pas cochons parce qu'il s'agit... Mais ils sont allés vers. Et je trouve que c'est beau. Jésus allait vers les foules. Les disciples sortaient d'eux chez eux. Et ils allaient vers. C'est là tout le rôle de l'Église, de sortir vers la misère. C'est là le rôle de chaque chrétien, de ne pas forcément attendre que l'on vienne vers nous, mais d'être capable d'aller vers, de sortir. J'aime beaucoup Joseph lorsqu'il est établi au second rang du pays d'Égypte. Il est dit que Joseph sortit et qu'il va visiter les contrées, qu'il va visiter les territoires qui sont sous son autorité. Allez vers. Mon frère, ma sœur, es-tu de ceux, peut-être pries-tu beaucoup, mais es-tu capable d'aller vers ceux qui souffrent ? On s'aperçoit d'une chose, c'est que les amis de Job ne vont pas passer leur temps à papillonner de maison en maison. Mais ils ont une cible, c'est Job. Et lorsque l'on veut bien s'occuper de quelqu'un, lorsque l'on veut être un véritable ami, il est nécessaire de s'occuper d'une ou deux personnes et de ne pas s'éparpiller. Parce que c'est chronophage. On le verra tout à l'heure. On ne peut pas porter, on ne peut pas aider la terre entière. Simplement, soyons sensibles au Saint-Esprit qui nous dirige vers des personnes. Vous savez, les amis de Job n'étaient pas des pasteurs. Ça n'existait pas en ce temps-là. C'était des hommes qui ont appris que Job, que leur ami, eh bien, était dans la souffrance. As-tu appris que ton frère est dans la souffrance ? Va vers. As-tu appris que ton voisin est dans la souffrance ? Va vers. Mais ils ne vont pas sortir vers lui dans n'importe quelle attitude, c'est le deuxième point de cette première partie. Ils vont le faire avec une réelle empathie. En quoi est-ce qu'on le voit ? L'empathie, c'est se mettre à la place d'eux. Ils vont déchirer leur manteau, comme Job. Ils vont s'asseoir par terre dans la poussière, comme Job. Ils vont jeter de la poussière au-dessus de leur tête, en signe du fait que d'humiliation. Nous revenons dans notre état initial. Vous savez, ces hommes, ils sont choqués, non pas parce qu'ils ont entendu, mais ils sont choqués parce qu'ils ont vu. Et pour véritablement connaître une empathie, il faut aller vers. Il faut toucher la misère. Il faut toucher la tristesse. Il faut voir les ulcères sur le corps de Job. Il faut voir les tessons de bouteilles qui sont posés à côté de lui. Ils font voir les larmes qui coulent. Allez vers. Peut-être que je vais choquer quelque peu, mais c'est facile de prier. Mais on ne prie jamais mieux que pour quelqu'un que lorsque l'on a vu quelqu'un qui souffrait. On ne prie jamais mieux que lorsque l'on a vu les larmes, que lorsque l'on a partagé les larmes de quelqu'un. C'est ça qui nous pousse à genoux. C'est ça qui, quelque part, nous emmène plus loin. Nous emmène dans la véritable intercession et qui nous fait quitter la petite prière religieuse enfantine. Parce qu'on a vu notre frère, notre sœur pleurer. Alors, on est capable de jeûner. Alors, on est capable de prier. Alors, il y a une priorité qui est mise dans notre vie. Il y a une réelle empathie qui se fait. Ils vont prendre le temps de le faire. Et ça également, c'est un signe de cette empathie. Il s'assoit dans la poussière avec lui pendant 7 jours, 7 nuits, rien dire. En 5 minutes, on ne soigne pas des plaies, c'est pas vrai. Je me souviens, cette personne que j'ai accompagnée pendant 5 ans, à raison de 2 fois par semaine. Et puis, au bout de 5 ans, 2 fois par semaine, tout d'un coup, la grâce de Dieu est venue, une parole de Dieu, bloom, guérison intérieure. C'est pas comme ça. Un texto. J'espère que tu vas bien, que le Seigneur te bénisse. C'est la nouvelle manière d'exercer le ministère maintenant, ça. Un message sur Facebook. Que le Seigneur te bénisse, je pense à toi. C'est bien. Mais c'est mettre des pansements sur des jambes de bois. Rien ne vaut un bon thé ou un bon café avec un paquet de Kleenex au milieu. Tout simplement pour partager, tout simplement pour échanger. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Un cœur ne se guérit pas en 5 minutes. Un cœur ne se guérit pas en 1 heure. Les larmes ne cessent pas de couler, comme ça, du jour au lendemain. Bien sûr, nous croyons dans l'action du Saint-Esprit. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, par expérience, ma faible expérience me montre qu'il faut bien souvent, notre rôle à nous, et je le dirai en conclusion, c'est de donner de la matière au Saint-Esprit, au travers de notre affection, au travers de notre amour et au travers du temps que nous pouvons passer. Il y a un profond respect également, il y a une attitude saine. Et ils vont vivre le silence. J'ai jamais connu d'entretien plus difficile que des entretiens où les personnes en face de soi ne parlent pas. C'est quelque chose de très compliqué. Je me souviens de cette première grand-mère, c'était l'une de mes premières visites ici, c'était Suzanne, bien pour ceux qui l'ont connue. On a enterré notre sœur, et j'allais la voir à la maison de retraite, et notre sœur ne parlait pas, ne pouvait plus parler. Alors je restais 3 quarts d'heure à côté d'elle, puis je lui lisais la Bible, et puis je priais. Et puis, au bout de la 3e ou de la 4e fois, cette grand-mère, tout d'un coup, à force, j'avais pris le fauteuil roulant et puis j'étais l'emmener dans le jardin. On s'était promené un petit peu tous les deux. Et puis elle me fait signe de m'agenouiller là. Alors je me dis, tiens, elle veut me parler. Et la seule chose qu'elle m'ait jamais dit, c'est vous êtes un bon pasteur, mais vous êtes jeune, gare à vos fesses. C'est les seuls mots que j'ai entendus de sa bouche et qu'elle ait pu dire avec grand élan. À bout de force, et quelques jours après, elle partait dans la gloire. Juste être assis avec quelqu'un, sans rien dire. Est-ce que l'on est capable de garder le silence? Moi, je suis admiratif des amis de Job, qui ont été capables de garder le silence pendant 7 jours et 7 nuits. Bien souvent, notre cœur est prompt à parler. On a toujours de superbes recettes, on a toujours de superbes solutions, et moi le premier, on a toujours de super versets qui nous viennent à l'esprit. On a toujours de super conseils très pratiques ou très spirituels. On a toujours de superbes révélations. On a toujours de superbes choses à dire. Mais la première chose qui est nécessaire d'observer devant quelqu'un qui se tait, c'est le silence. Et à un moment donné, Job va parler et c'est là que les choses vont se compliquer. Et on le voit bien dans le livre de Job, au chapitre 21, versets 2 et 3, lorsque ses amis lui font la morale, lorsqu'ils se sont mis à parler, Job leur dit « Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation, laissez-moi parler, je vous prie. » Tout d'un coup, Job veut parler, et eux, ils n'arrêtent pas de parler. « Mais écoutez-moi, laissez-moi parler. » Et quelqu'un qui souffre, eh bien la seule chose qu'il veut, c'est être écouté. Il ne veut pas de leçons de morale, il ne veut pas de révélation, il ne veut pas de notion de spirituel, mais il veut tout simplement parler. Tout simplement, il n'a pas besoin d'entendre Jean 3,16. Un kiné ne manipule jamais à chaud. Il veut tout simplement parler. Il veut tout simplement être écouté. Et ça, c'est dur. C'est d'autant plus dur lorsqu'il s'agit d'écouter la souffrance de quelqu'un. Et au chapitre 6 et au verset 2, Job dira « Aussi, il était possible de peser ma douleur. » Et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Et Job le dira, mes paroles vont jusqu'à la folie, il en était conscient. Mais pour quelle raison? Parce qu'il souffrait. Parce qu'il avait mal. Quelqu'un qui souffre voudra automatiquement vous faire souffrir. Bien souvent. Mais gardez toujours dans un coin de votre esprit que ce n'est pas vous qui êtes visé, mais c'est l'émanation de sa souffrance. Ils ont manifesté une réelle empathie, ils sont sortis, ils sont venus, et conclusion de cette première partie, être un ami selon Dieu, c'est aller vers ceux qui souffrent, avec tact et douceur pour partager la souffrance et non pour l'enlever. La nuance est importante. Pour partager la souffrance et non pour l'enlever. Ça, c'est le rôle de Jésus, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. Jésus vient et il enlèvera la souffrance. Oui, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais ce n'est pas notre rôle. Nous, nous donnons de la matière au Saint-Esprit. Être un ami selon Dieu, c'est écouter son cœur et savoir se taire comme un signe d'humilité. C'est ce que j'ai très vite appris, c'est qu'un entretien, on ne pouvait jamais savoir comment il allait se dérouler. On ne sait rien. On ne sait rien. Vous ne savez rien de la personne qui est à côté de vous. Troisième point, c'est prendre du recul par rapport aux excès de la souffrance, que la souffrance engendre, en se gardant du jugement et des attitudes et des jugements hâtifs. Deuxième point, donc premièrement, c'est être présent en se taisant. Deuxième point, c'est que tout n'est pas comme nous pouvons l'imaginer. Ou tout n'est pas comme nous pouvons le penser. Dans la culture de l'Ancien Testament, maladie égale jugement de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît être un raccourci parce que l'on a été enseigné maintes et maintes fois là-dessus. Et dans l'auditoire, il n'y a plus personne qui peut penser une chose pareille. C'est vrai, hein ? Je ne me trompe pas. C'est valable pour l'ancien temps, mais ce n'est pas valable pour nous aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu une chose pareille ici. Et de la même manière que le fait de ne pas avoir d'enfant était un signe de malédiction, etc., c'était des jugements, c'était des notions qui étaient dans la culture de l'époque. Alors, nous, ça nous paraît ubuesque, mais pour autant, est-ce que nous n'avons pas nos propres raccourcis ? On peut très bien avoir nos idées préconçues sur des personnes. De temps en temps, j'ai entendu dire « Ce qu'il faut à cette personne, c'est telle chose. » Mais tu la connais ? Non, mais j'en suis sûr. Non. Ce qu'il faut sur cette situation-là, c'est ça. Mais on n'a que la partie immergée de l'iceberg. En fait, ce qui se passait dans les cieux dépassait complètement les quatre amis de Job. Puisque Job était le représentant de Dieu, et il était en train de prouver quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'homme et le chrétien a vocation à aimer Dieu pour rien. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est quelque chose qui dépassait complètement l'idée de ces hommes. Que finalement Job pouvait être le représentant de Dieu, et que Dieu était en train de prouver au diable, mais également à nous, dans notre génération aujourd'hui, que l'homme peut aimer Dieu pour rien. Sans bénédiction, nous pouvons aimer Dieu. Même si Dieu cesse de nous bénir, cesse de nous donner, cesse de nous donner ce que nous possédons, nous pouvons quand même l'aimer pour rien. Tout simplement pour ce qu'il est. J'ai aimé tant de louanges où un frère disait « Seigneur, nous te louons pas pour ce que tu fais, mais nous te louons pour ce que tu es. » Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est ça que Job était en train de prouver. Lui-même n'en avait pas conscience. Mais Dieu le savait. Les amis de Job n'en avaient pas conscience. Ça les dépassait. L'enjeu était complètement au-dessus. Et il y a bien des situations où on veut mettre nos boîtes, mais l'enjeu est au-dessus. La situation est bien différente de celle que nous pourrions penser. C'est pas parce que nous avons vu, il y a 10 ans de ça, un cas similaire, que la chose est la même. Chaque cas est unique. Et parfois, il y a bien des choses qui nous dépassent. Bien des choses qui nous dépassent. Et les méthodes de Dieu sont les méthodes de Dieu. Les projets de Dieu sont bien éloignés des nôtres. Les pensées de Dieu sont bien éloignées des nôtres. Mais en tout cas, nous savons que ce sont toujours des projets de paix pour nous. Et même si le projet de Dieu nous dépasse, on s'aperçoit que très vite, ils vont devenir moralisateurs. Quelques morceaux choisis. 4-3. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as fermé les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. De grâce, si jamais un jour je suis mal, évitez de me dire des choses pareilles. Ça fait mal. C'est culpabilisant. 4-5. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. 4-6-7. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Mais tu n'as pas de foi, mon frère. Attendez, la foi nous est donnée d'en haut. Hein. Nous, tout ce qu'on fait, c'est s'accrocher. Tu n'as pas de foi. Prie plus. Faut que tu jeûnes, faut que tu pries, faut que tu rentres dans le combat spirituel.
Oh.
Allez dire à un boiteux de courir le marathon, vous. Celle-là, elle est belle. 5, 16, 19. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ouh. Mon frère, tu souffres, sois heureux parce que c'est l'Éternel qui te punit. Mais attendez, j'ai rien fait, moi, je suis puni. Je sors ces versets. Pourtant, de près ou de loin, c'est des choses que l'on a pu entendre, que moi j'ai pu entendre. Et qui ne sont en rien spirituelles, mais qui sont moralisateurs. Et il faut toujours distinguer l'ami chrétien, si tu veux être un ami authentique comme Jésus l'est, eh bien agis comme Dieu. Ne mets pas l'emphase sur les faiblesses de quelqu'un, mais mets l'emphase sur la grandeur de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu. Comment Dieu va-t-il restaurer Job ? D'abord, il va lui apparaître dans la tempête. Dieu va parler à Job dans la tempête. J'aime bien ça. Dieu nous parle souvent dans la tempête. Puis il va lui parler du crocodile, de l'hippopotame. À un moment donné, il va le faire taire. Bah, tu n'as quand même pas à m'enseigner, Job. Donc, Dieu est capable de manifester un petit peu d'autorité. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Mais Dieu ne va pas mettre l'emphase sur les faiblesses de Job. Tu ne sais pas faire ça, tu ne pries pas assez, tu n'as pas suffisamment de foi. Et mon frère, ma sœur, toi qui souffres, Dieu ce matin, Jésus ne te dit pas, tu es nul. Mais Jésus te dit, regarde à moi. Regarde à ma création, regarde à ce que j'ai accompli. Regarde à ce que j'ai fait, regarde à ce que j'ai vécu. Jésus te dit, eh bien regarde à ce que je soutiens. Je soutiens toute chose par ma main toute puissante, par ma parole toute puissante. Alors je serais bien capable de te soutenir. Jean-Luc, je serais bien capable de te soutenir, je soutiens bien, eh bien Mars et Vénus. Romain, je serais capable de soutenir, je prends soin des petits oiseaux. Tu sais, David, je serais capable de te soutenir, tout simplement parce que, eh bien, les arbres, eh bien, même s'ils perdent leurs feuilles, les lois que j'ai instaurées permettent qu'ils reviennent. Mettre l'emphase, non pas sur ce que la personne est, parce que c'est sporadique, c'est quelque chose qui est ponctuel. Sur la grâce de Dieu qui relève, sur l'amour de Jésus qui a porté nos péchés à la croix, sur l'amour de Jésus qui a gommé nos fautes, sur la grâce de Dieu qui répare nos erreurs, sur un discours qui n'est pas culpabilisant. Tu as péché, repens-toi, il doit y avoir des choses mauvaises dans ta vie. C'est pas à nous de le dire, c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Jésus nous aime et c'est pas un discours culpabilisant qu'il donne. Mais c'est un discours d'amour et de grâce. Tu es pas bien, Jésus t'aime. Tu es sale, Jésus t'aime. Relève-toi, il va te pardonner. Oui, passe par une repentance, mais sache que Jésus te pardonnera. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas une pauvre fille, un pauvre type, pas un pauvre chrétien. Tu as du prix, tu as de la valeur. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, il y a des choses à côté desquelles tu es passé. Ce n'est pas un problème. Jésus est celui qui reconstruit. Et les années que la sauterelle a dévorées, eh bien Jésus te les redonnera. Tes greniers seront pleins de blé et ta vigne sera pleine de mons. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je pense que ça doit être notre emphase. Ça doit être vraiment notre but. Et troisième point, c'est que nous ne sommes pas là pour convaincre, mais pour donner de la matière au Saint-Esprit. Bien souvent, on veut convaincre. On veut montrer que l'on a raison. C'est intéressant d'ailleurs de distinguer les deux choses. Est-ce que l'on veut convaincre ou est-ce que l'on veut montrer qu'on a raison ? En le disant, je me dis qu'il y a une petite nuance qui est intéressante. Et la conséquence, c'est que on peut irriter. Job 12:2, on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. C'est Job qui répond ça à ses avis. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Job 13:2 répondra, ce que vous savez, je le sais aussi, je ne suis point inférieur. Pas la peine de se placer au-dessus. Non, c'est un cœur à cœur qu'il faut. Et avec des démarches pareilles, on peut irriter, on peut bloquer. Alors, en conclusion, 4, 5, 6, 6 points. Rapide. Premier point, pour bien synthétiser cela, il est nécessaire d'écouter avant de parler. Et je dirais même, il est nécessaire de connaître avant de parler. Même sur des choses basiques. Prenez l'habitude de toujours écouter, si vous voulez être de bons amis. Deuxième point, nous pouvons pousser l'autre à dire... deuxième point, il est nécessaire d'établir un lien de confiance avant de vouloir aider ou même d'évangéliser. Un jour, un pasteur qui s'appelait Michel Pelletier, vous le connaissez, m'a donné une parole qui est le fil finalement de mon ministère. Il m'a dit, aime tes chrétiens et tu pourras leur dire tout ce que tu voudras. Même les choses les plus désagréables. Et c'est vrai. Je vous en ai dit des choses désagréables des fois, hein, à peu près à tous. Il y a un lien de confiance. C'est pareil. On ne peut pas aller taper sur l'épaule de quelqu'un que l'on ne connaît pas en disant, écoute, dans ta vie, ça va pas du tout. Patrick, change de cravate. Elle est très bien, sa cravate. Hein. Change de cravate, quoi. Non, c'est pas possible. Change la cravate de ton cœur. Non. Alors qu'on ne se connaît pas. Même lorsqu'on a une révélation de Dieu. Même lorsqu'on a une pensée de Dieu. Même si celle-là est réelle et authentique, elle doit être exercée avec amour et surtout dans un climat de confiance. Troisième point, prendre son temps. Aller vite est souvent contre-productif. Et puis, il ne faut pas se décourager si les choses sont longues, c'est normal. Petit conseil, ne pas être trop long. Lorsque vous visitez quelqu'un, lorsque vous échangez avec quelqu'un, une heure, c'est le grand max. Vaut mieux 3 fois 1 heure plutôt que 3 heures. Ne pas donner de conseils la première fois, c'est ce que je disais, un kiné ne manipule jamais à chaud. Ne pas donner de conseils trop difficiles, mais tenir compte de l'état de l'autre. On pourrait me donner des conseils qu'aujourd'hui je suis capable d'assumer, mais que demain je ne serai peut-être pas capable de faire. Est-ce que l'objectif est atteignable ou pas? Allez dire à quelqu'un qui souffre, il faut que tu pries 8 heures. C'est comme dire à un anorexique, va au McDo et goinfre 3 de prendre 3 Big Mac. Pourtant je l'ai eu entendu. C'est une hérésie. Ne pas spiritualiser les choses. Je vais peut-être vous étonner et vous choquer. Alors, vous qui êtes des âmes sensibles, vous fermez vos oreilles. Tout ne se règle pas à coups de verset. Les solutions ne se règlent pas à coups de verset. Mais simplement, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous donne les bonnes paroles, les bons versets au bon moment. Et mieux vaut un verset, une parole dite à propos, dit le livre des Proverbes, plutôt qu'une foule jetée n'importe comment. Un bon verset, un bon moment de communion fraternelle et une prière, ça fait du bien. C'est pas la peine de réciter la Genèse à l'Apocalypse. Et de mettre Dieu là où il n'est pas. Parfois, il faut travailler dans le concret et pas dans le spirituel. Distinguer les choses. Enfin bon, bref, ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication. Un autre point que je tiens à synthétiser, ne moralisons pas, mais éclairons la grâce de Dieu. Et je voudrais conclure là-dessus. Enfin, conclure la conclusion. D'accord ? C'est vraiment la pensée phare. Distinguons moralisation de spirituel. Montrons la grâce de Dieu. Montrons la puissance de Dieu. C'est ça qui est important. Parce que sinon, comme Job, on pourrait vous répondre, je ne te suis pas inférieur. Que le Seigneur nous aide et nous fasse du bien. Amen. Et qu'il nous donne la grâce d'être de bons amis et des amis authentiques que son nom soit béni. Amen.